Hey, salut tout le monde, c'est Mathieu. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de transport de patients critiques. Pour en parler, j'ai avec moi le docteur Michael Mayotte. Salut Michael.
Salut.
Et j'ai le docteur Marc-André Leclerc. Salut Marc-André.
Salut Mathieu.
Merci beaucoup de l'invitation pour en parler. Je pense que c'est un sujet que vous aimez beaucoup.
Oui, c'est un sujet qu'on aime beaucoup. Je suis moi-même un intensiviste, interniste intensiviste à temps plein, mais je suis aussi très impliqué dans différents programmes liés au transport, notamment le comité de transport de notre CIUS. Moi, je travaille à Sherbrooke. Je suis également médecin conseil pour la compagnie Air Médic en transport aéroporté. Puis, je suis aussi un des coordonnateurs pour le COOL-C, dont tu as déjà parlé sur un de tes podcasts pour la coordination des transports à l'intérieur de la province.
Moi, même chose, un grand intérêt pour le transport. En fait, une partie de mon fellowship en soins intensifs était dédiée à faire du transport en Australie, surtout aéroporté. Moi aussi, je suis médecin conseil et médecin de vol pour la compagnie Air Médic. De temps en temps, je fais partie de notre équipe locale de transport pour le CIUS en Estrie. Et ben, je suis dernièrement intensiviste, interniste et chef des soins intensifs pour tout le CIUS de l'Estrie.
Fait que je suis tombé sur les bons gars pour parler de transport. Fait que ça vous convient, c'est parti. Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. J'étais avec Marc-André puis Mickaël pour parler de transport. Comme vous avez entendu, hein, c'est, je pense, du monde qui sont bien placés pour en parler. Mais là, les gars, on parle de transport, mais la première chose qui me vient à l'esprit, c'est, tu sais, y a-tu des lignes directrices là-dessus?
Oui, c'est un sujet qui est probablement resté un peu dans le vague des lignes directrices pendant longtemps, mais les 15 à 20 dernières années, ça a été une explosion de littérature sur la documentation des événements adverses, sur la planification adéquate du transport, sur l'organisation des transports à l'intérieur des systèmes de soins. Il y a plusieurs lignes directrices qui existent maintenant. Les plus proéminentes, les plus connues, sont surtout celles qui viennent d'Europe et entre autres du Royaume-Uni, où l'organisation des transports à l'intérieur d'un système bien balisé, bien coordonné, existe déjà depuis plusieurs années. Il y a un certain nombre de provinces au Canada qui ont commencé à s'organiser de façon beaucoup plus concrète. On est un petit peu à la remorque de tout ça au Québec, mais le Collège des médecins du Québec a déjà émis certaines recommandations par rapport au transport, puis vient entre autres l'été dernier, au mois d'août 2020, de mettre à jour un document de recommandations, de balises pour l'organisation des systèmes de transport à l'intérieur de la province de Québec. Donc, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à des lignes directrices au Québec, mais qui sont beaucoup imprégnées des recommandations qui viennent d'ailleurs où les systèmes existent depuis beaucoup plus longtemps.
Si tu me permets, Michael, je rajouterais aussi, là, c'est important de comprendre que ces lignes directrices-là, elles sont quand même fondées sur de la littérature qui est en général de qualité assez, mettons, disons, médiocre. Fait que c'est avant tout des lignes directrices qui sont basées sur des avis d'experts. Ça, je pense que c'est important de le mentionner.
Mais là, tu sais, on parle de ligne directrice, mais puis on parle de transport. Je sais que ça vous passionne beaucoup, mais c'est pas tant sexy comme sujet. Tu sais, faut-tu vraiment en parler? C'est-tu fréquent ce genre de truc-là?
Oui, c'est très fréquent. Je suis content que tu en fasses un podcast pour qu'on puisse en parler, puis que j'espère de plus en plus de gens s'intéressent à ce domaine-là. C'est un domaine pointu à l'intérieur du monde des soins critiques, puis il y a clairement une expertise qui peut se développer là-dedans. Et on va en reparler tantôt un peu, je pense, là, de plus qu'un type de transport, le transport intra-hospitalier et le transport inter-hospitalier, qui sont les deux plus grandes catégories. Si on parle juste pour le Québec, commençons par le transport intra-hospitalier. On le sait de la littérature, un patient aux soins intensifs va en moyenne dans son séjour hospitalier sortir de l'unité entre 3 et 6 fois pour différentes choses, pour des transports vers le bloc opératoire, vers des examens d'imagerie, vers des fois c'est des changements d'unité d'un endroit à l'autre. Il y a un certain nombre de motifs qui peuvent faire qu'un patient va être déplacé à l'extérieur de l'unité des soins intensifs. Et à chaque fois, pour le patient en état critique, c'est un enjeu significatif. Puis l'interhospitalier, ben, je parlais tantôt du COOL-C, de la centrale de coordination. À travers le COOL-C, on commence finalement à avoir un peu de données sur le Québec. Dans la province au complet, sur la fréquence de ces transports-là. Et les données les plus récentes dans le COOL-C, on sait que le COOL-C présentement coordonne des transferts vers du soin critique, environ 200 transferts par mois. à l'intérieur de la province. Et ça, bien, ça exclut un certain nombre de choses qui, pour l'instant, ne sont pas sous la gouverne du coup aussi. Donc, ce chiffre-là, il est sous-estimé parce que tous les traumas ne sont pas comptés là-dedans, les transferts d'urgence à urgence, l'hémodynamie pour la cardiologie, par exemple. Là, je ne parle pas de pédiatrie et de néonatologie du tout. C'est pas tous les appels. Donc, il y a certains centres qui n'utilisent encore pas toujours la plateforme du coup pour coordonner leur transport. Fait que tout ça, c'est des raisons qui me fait dire que le 200 transports par mois, même ça, c'est sous-estimé. Ce que ça veut dire, c'est que dans notre petite province, qui n'est pas si grande que ça, il doit se faire probablement entre 200 et 400 transports de soins critiques à tous les mois entre différents hôpitaux à l'intérieur de la province.
Pour complémenter un peu, là, si on regarde les registres au Royaume-Uni et les registres aux États-Unis, là, on sait que sur les admissions aux soins intensifs, là, c'est environ 5 % des admissions qui arrivent aux soins intensifs qui proviennent d'un hôpital extérieur. En fait, c'est quand même très fréquent, là, Michael le dit à travers le COOLSI, mais c'était bien connu ailleurs dans le monde. Puis si on va dans des centres tertiaires où il y a des spécialités supra-régionales, par exemple, on pourrait prendre l'exemple de la traumatologie, ça peut être jusqu'à 30 % de la clientèle qui va arriver par un transport inter-établissement. Fait que très fréquent.
Fait que c'est fréquent, mais tu sais, il y a des enjeux cliniques, mais est-ce qu'il y a des enjeux aussi médico-légaux? Parce que c'est quand même pas banal, là, la façon que je comprends transporter un patient.
C'est non seulement pas banal, c'est à risque de complications, puis tu as tout à fait raison de soulever le point de l'enjeu médico-légal. C'est une zone de débat importante, puis c'est une zone c'est des questions qui sont très souvent posées sur ça, là. Donc, le patient qui est en transport, par exemple, entre deux hôpitaux, s'il arrive une complication majeure, qui est responsable de ce patient-là? Parce qu'il n'est justement pas dans une institution au moment où il transfère. Alors, ces questions-là sont posées fréquemment. C'est des questions sur lesquelles l'Association canadienne de protection médicale s'est déjà un petit peu penchée également. Puis, le document du Collège des médecins du Québec, dont j'ai parlé tout à l'heure, en fait également mention. Ce qui est important de retenir pour le transport, si j'y vais de façon très, 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 très rapide, c'est que la responsabilité est quand même d'abord et avant tout au médecin traitant initial, donc le médecin demandeur. Celui-là va avoir la responsabilité du patient tant qu'il n'est pas physiquement pris en charge par le médecin dans le centre où il va transférer le patient. Par contre, le document du Collège des médecins du Québec soulève bien l'enjeu important que la médecine de transport, c'est une science complexe pour laquelle on ne peut pas s'attendre à ce que tous les médecins référents soient des experts, soit de contenu de la prise en charge du patient comme tel, ou soit de médecine du transport comme tel, donc tout ce qui peut se débalancer au moment où on fait le transport interhospitalier. Et il est de la responsabilité du médecin référent, donc du médecin demandeur, de s'enquérir de conseils ou de recommandations qui va demander au médecin à qui il veut référer son patient et à qui il va le transférer. Et là, à partir du moment où le médecin du centre vers lequel le patient sera transféré commence à exprimer ou à donner des recommandations, il va engager lui-même sa responsabilité médico-légale à l'intérieur des limites des conseils qu'il a donnés. Il y a plusieurs provinces et autres pays dans le monde qui ont implanté des systèmes où la coordination du transport lui-même est chapeautée par un organisme distinct. Donc, la responsabilité médico-légale des complications qui surviennent durant le transport vont devenir un peu sous la responsabilité d'un organisme autre avec des médecins experts qui sont des adeptes de la science du transport du patient en état critique. Et là, ça change un petit peu la dynamique dans tout ça. Mais pour l'instant, dans notre situation au Québec, ça devient une espèce de responsabilité partagée. Le médecin expert devrait lui-même prodiguer des conseils et des recommandations au médecin qui envoie le patient, mais celui-là demeure quand même ultimement responsable du patient jusqu'à son arrivée au centre de destination.
Je te remercie, Michael, vraiment pour avoir clarifié ces enjeux-là. C'est sûr que pour nos auditeurs qui sont hors Québec, peut-être juste se référer là, à vos codes de déonto puis vos lois dans votre territoire pays, là. Mais je pense que ça doit sensiblement se recouper, là, les grandes lignes. Ça reste toujours, on s'occupe du patient, en gros, là. Puis il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé quand on parlait même avant l'enregistrement puis en préparation de l'épisode, tu parlais de deux types principaux de transport, là, l'interhospitalier mais l'intra-hospitalier aussi, puis l'intra-hospitalier, ça m'a frappé beaucoup parce qu'on n'a pas tendance à en parler, ni même considérer que c'est du transport de patients. Mais tu l'as mentionné, le patient va sortir 5 à 6 fois en moyenne dans son séjour. Chez nous, on a tendance à se préparer. On se dit, bon, faut-tu des tubeurs, faut-tu des médicaments? Mais outre ça, y a-tu vraiment des risques au niveau intra-hospitalier? Faut-tu vraiment se soucier de préparer le transport dans l'hôpital?
Sans aucun doute. C'est très bien qu'on en parle ici. J'espère que la majorité des gens sont conscients des risques qui sont associés avec ça. Plus le patient est malade, plus le patient est instable, plus les risques sont grands dès qu'il quitte l'environnement, je vais dire, sécurisé de l'unité des soins intensifs, de son moniteur et compagnie. Et ça demande une préparation, transporter un patient en état critique, peu importe si on va quatre portes à côté ou si on traverse l'hôpital au complet. Donc, en intra-hospitalier, ça aussi, c'est associé avec des risques. Puis, il y a de la littérature sur ces questions-là. Je pense que tu l'as mis dans tes références, Mathieu, mais il existe de la littérature sur la survenue d'événements adverses associés avec le transport intra-hospitalier, puis qui a même mené à certaines opinions d'experts et recommandations. Il y a un papier de 2010 de Benoît Fanara et ses collègues qui les rapporte quand même très, très bien, là, l'incidence d'événements adverses et la préparation à travers un certain nombre de recommandations pour le transport intra-hospitalier. Ce que la littérature nous dit, c'est que les effets indésirables, évidemment, qui sont de sévérité diverse, vont survenir dans 4 à 9 % des transports. Certains là-dedans sont des événements adverses avec peu de répercussions, comme des désaturations transitoires ou de l'hypotension qui va rapidement répondre au réajustement de traitement, mais ça devrait quand même être considéré comme des événements adverses également. Puis si on va à l'extrême de l'événement indésirable sévère, qui est l'arrêt cardiaque pendant le transport, la littérature nous dit qu'il y a quand même entre 0,3 à 1 % des transports intra-hospitaliers qui vont précipiter un arrêt cardiaque. Donc, ce n'est pas du tout banal. Je pense que si on demande à n'importe quel intensiviste, on va tous avoir des souvenirs de quelques patients chez qui le transport intra-hospitalier a mené à des complications très graves. Et ça, à chaque fois, ça nous fouette un petit peu à essayer de re-questionner nos pratiques puis de savoir est-ce que pour ce patient-là donné, est-ce que j'aurais pu le prévenir? Est-ce qu'une meilleure préparation ou une meilleure planification du transport aurait pu prévenir des événements divers importants?
Là, tu parles de préparation, d'anticipation, mais comment on pourrait se préparer à ce type de transport-là intra-hospitalier?
Je pense que la première étape de cette préparation-là, c'est de décider si la balance des risques et des bénéfices, elle est favorable au patient. Parce qu'il y a tout d'abord des alternatives au transport qui peuvent exister, les examens ou les procédures faites au chevet, par exemple, de remplacer certains examens tomodensitométriques par une échographie, par exemple. Il y a de plus en plus de centres qui se sont développés des endroits bien sécurisés dans leurs soins intensifs pour faire des petites procédures, même des procédures qui, des fois, qui classiquement, historiquement, nécessitaient, par exemple, de sortir des soins intensifs pour aller au bloc opératoire, mais il y a des choses qui peuvent se faire au chevet. Et je pense que ça, il faut toujours le considérer. Il faut mettre dans la balance le bénéfice anticipé de la sortie du transport, donc l'examen diagnostique qu'on veut faire ou la procédure qu'on veut faire, versus ses risques. Alors ça, c'est la première portion de cette planification-là. Une fois qu'on a déterminé que la balance est plutôt favorable à déplacer le patient. Donc, on a absolument besoin d'une imagerie complémentaire ou d'une procédure qui ne peut pas se faire aux soins intensifs et qu'on décide, bien, il va falloir qu'on transporte ce patient-là. Il faut d'abord regarder notre patient et voir s'il y a quoi que ce soit dans l'état, dans la stabilité du patient qui peut être optimisé avant le transport. Un patient qui est en voie de détérioration, à moins que l'examen ou la procédure soit urgente dans l'immédiat, il y a souvent place à tenter une certaine optimisation du patient. Je pense aux paramètres du respirateur, je pense à l'hémodynamie, je pense à l'instrumentation, les accès veineux sécuritaires. Tout ce qui peut être fait avant de décider de déplacer le patient en vaut la peine, à mon avis, sauf quand c'est des procédures d'extrême urgence qui nécessitent le déplacement. Deuxièmement, une fois qu'on a bien évalué puis qu'on est à stabilité optimale du patient, après ça, bien, il y a de la planification importante à faire au niveau du matériel qu'on va transporter avec nous. Il y a le matériel qui est propre au patient puis qui est déjà en cours présentement, comme par exemple les différentes perfusions que le patient reçoit, de s'assurer qu'on a suffisamment de réserves de médicaments pour chacune de ces perfusions-là, avant de partir vers le transport. On pense également à du matériel supplémentaire qui pourrait être nécessaire. Je pense au patient qui est un peu fragile au niveau respiratoire puis qui part non intubé, par exemple. Mais celui-là, on devrait avoir du matériel au besoin pour l'intubation. Les patients qui sont à haut risque d'arythmie pourraient nécessiter d'avoir carrément un défibrillateur avec nous au moment où on transporte, et etc. Donc, il y a énormément d'exemples qu'on peut soulever à ça. finalement, bien, le matériel dont je parle, une fois qu'on optimise un peu tout ce qu'on peut avec le patient, l'exemple classique d'optimisation en vue d'un transport intra-hospitalier, c'est le patient intubé qui va être mis sur un respirateur différent au moment de son transport, qui est le respirateur mobile, le respirateur de transport. Mais la plupart des gens s'entendent pour dire que la bonne pratique serait probablement de mettre le patient sur son respirateur de transport puis de patienter avant de partir, un 5 à 10 minutes au moins, pour s'assurer que la transition d'un appareil vers un autre n'a pas amené une nouvelle décompensation du patient. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres où quand on change la façon dont on soigne le patient, avant de dire tout va bien, il est correct, on est stable pour aller transporter, on devrait probablement laisser le temps à l'équipe traitante de bien évaluer si la transition vers le matériel de transport n'a pas généré de nouvelles instabilités du patient. Et finalement, bien, dans la préparation, le dernier point le plus important que je voudrais apporter, c'est que tout ce que je viens de dire là, ça vaut la peine de le standardiser, d'avoir une approche rigoureuse et standard à la préparation du patient vers un transport. Et puis, la littérature supporte fortement l'utilisation de listes de contrôle ou de checklists, comme on dit en anglais bien souvent. Passons à faire ça de façon rigoureuse et systématique avant chaque transport, d'avoir simplement des cases à cocher pour être sûr que toutes ces étapes-là de préparation au transport, de planification de matériel, d'évaluation de la stabilité du patient, que tout ça a été fait de façon convenable. Dans la préparation, dans la checklist, il faut penser à tout ce qui se passe dans nos soins intensifs, dans notre unité avant de partir, du matériel qu'on va avoir besoin pendant la route et de l'optimisation du milieu d'accueil. Donc, où est-ce qu'on s'en va? Est-ce que ce milieu-là est prêt à recevoir l'acuité du patient qui nous concerne? Est-ce que le bloc opératoire sont bien prêts et conscients de l'instabilité du patient? Est-ce que le scan est avisé, par exemple, de notre arrivée pour qu'on ne patiente pas dans le corridor? Est-ce que le milieu est prêt à recevoir tout ce que nous, on va amener avec notre patient qui est instable? Fait qu'on fait l'optimisation avant de partir, on prépare tout le matériel pour le pendant, mais on s'assure également de l'optimisation du milieu d'accueil de là où on s'en va avec le transport intra-hospitalier.
Là, tu me parles de standardisation, puis ça m'amène la question, penses-tu qu'on devrait se dédier des équipes pour ça, se dédier du matériel, se dédier des chariots?
Il y a beaucoup d'endroits qui ont évolué leurs soins exactement de cette façon-là. Donc, la checklist est un premier point de départ vers l'organisation systématique du transport intra-hospitalier. Mais tu as tout à fait raison, on pourrait penser optimiser encore plus en dédiant du matériel, comme par exemple un chariot qui va suivre les patients en transport tout le temps. Je pense que ça, c'est encore pour la grande majorité des patients tout à fait gérable de ramasser le matériel un peu à la pièce lorsqu'on part, surtout si on le fait de façon rigoureuse avec l'utilisation d'une liste de contrôle. Mais ça pourrait tout à fait être envisagé. Il y a plusieurs centres qui ont dédié des équipes au transport parce que la science du transport, ce n'est pas nécessairement facile. Il y a plusieurs centres qui utilisent le concept d'équipe d'intervention rapide qui parfois peuvent être des gens qui sont un peu expérimentés en soins critiques, qui ont l'habitude d'aller chercher des patients un peu à l'extérieur puis qui peuvent être des atouts intéressants pour transporter les patients. Et là, bien, la balance entre l'équipe standard de transport versus l'équipe qui soigne le patient présentement, si je pense à l'infirmière, par exemple, l'infirmière de l'équipe d'intervention rapide versus l'infirmière du patient, bien, on doit faire la balance de risques et de bénéfices entre quelqu'un qui a peut-être plus d'expérience en transport versus quelqu'un qui connaît très, très bien son propre patient. Donc, les deux ont peut-être quelque chose de différent à apporter à la sécurisation du transport du patient. Puis je pense que ça doit demeurer une décision, une individualisation des soins selon le patient comme tel.
C'est peut-être qu'une des choses qui pourrait être faite, ça serait de s'assurer qu'il y a au moins du monde habilité ou habitué de faire du transport sur chaque corps de travail ou qui pourrait se jumeler pour le temps du transport au personnel infirmier du patient, je ne sais pas.
Absolument. Puis dans notre sens, je parlais de l'équipe d'intervention rapide, c'est juste un exemple. On est en processus d'implantation des équipes d'intervention rapide comme ça pour différentes choses dans l'hôpital, mais une des tâches qu'on, dans notre planification de l'équipe d'intervention rapide, une des tâches qu'on veut allouer à cette équipe-là comme telle, c'est justement ça, c'est de développer à l'intérieur d'une quantité de personnel plus réduite, mais présente sur tous les corps de travail, de développer une expertise sur la science du transport, puis de venir épauler les autres équipes. Les autres infirmières sur le plancher, par exemple, qui vont transporter leurs patients, mais de leur donner du soutien avec des gens qui vont avoir eu le temps au fil des mois de développer une expertise dans la science du transport.
Ça fait quand même pas mal de sens, puis je suis content de voir que ça se développe beaucoup de chez vous. Peut-être que vous y êtes pour quelque chose, les gars, là.
Peut-être.
Peut-être.
Puis je rajoutais comme dernier point par rapport au transport intra-hospitalier. Évidemment, on peut en parler longtemps. Là, c'est un sujet assez fascinant puis pas nécessairement assez souvent abordé, à mon avis. Mais c'est la documentation de tout ça. Là, le dernier point que je dirais peut-être, là, je parlais de documentation en termes de liste de contrôle avant de partir. Ça, c'est tout à fait correct. Mais je pense qu'il y a place à standardiser aussi la façon dont on documente comment s'est passé le transport. Y a-t-il eu un effet indésirable? Un événement indésirable associé avec le transport, puis de pouvoir être capable de centraliser cette information-là dans des portions accessibles du dossier médical du patient de façon à faire de l'amélioration continue de la qualité après, si on est capable de rapidement savoir lorsqu'il y a eu des événements, dans quelle proportion ces événements-là surviennent à l'intérieur de chaque établissement. C'est pas pareil chez nous que ça va se passer à Montréal ou dans un centre plus petit. Donc, les hôpitaux sont tous un peu différents, puis chaque hôpital devrait, à mon avis, se doter d'outils de documentation adéquats pour être capable de suivre de façon continue leurs propres statistiques sur la sécurité des transports intrahospitaliers, puis on espère optimiser les choses.
Ben, ça me fait penser, tu sais, ça pourrait être aussi simple que de développer un formulaire standardisé de notes préfaites. Puis là, moi, sans faire ça, Michael, je suis vraiment content qu'on ait parlé du transport intra-hospitalier parce que je savais qu'il y avait des risques, mais je savais pas à quel point ce transport aussi banal qu'aller au scan peut comporter autant de préparation parce que dans le fond, le but, c'est de minimiser le patient. Puis des fois, il y a des trucs que tu mentionnais que ça a l'air du gros bon sens, mais on dirait que quand on s'appuie sur le gros bon sens. Des fois, on a tendance à oublier, surtout quand on est dans le feu de l'action. Fait que j'aime beaucoup ton idée de standardiser le processus parce que, tu sais, quand t'es dans le rush, t'es dans le jus, là, tu retombes un peu sur les mécanismes puis les standardisations parce que là, t'es comme un peu... faut que tu patines un peu partout. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Si jamais il y a des outils, on n'hésitera pas à les partager, là, s'il y a des outils disponibles. On a parlé quand même pas mal du transport intra-hospitalier, mais des fois, on parlait d'entrée de jeu aussi qu'il y avait du transport inter-hospitalier, beaucoup aussi. C'est sûr que le transport pré-hospitalier en soi, on ne l'abordera pas aujourd'hui, là, qui est, je pense, en soi, ben, c'est une profession. Mais ce qui nous intéresse beaucoup ici aux soins, c'est le inter-hospitalier. Puis là, tu disais qu'il y en avait peut-être de 2 à 400 par mois. Bon, là, c'est sûr qu'on parlait de risques intra-hospitaliers. Je m'attends à ce qu'il y ait des risques inter-hospitaliers nécessairement.
Oui, il y a certainement des risques aussi, puis les transports interhospitaliers, c'est très, très fréquent, effectivement, comme on l'a mentionné tantôt. Puis les événements adverses, il y en a qui surviennent là aussi, puis je pense que Marc-André pourrait nous en parler un peu plus.
Super. Merci, Michael. Effectivement, le transport interhospitalier, c'est l'un des transports qui est le mieux connu, qui est beaucoup moins obscur et plus fashion que celui de l'intérieur hospitalier. Mais il y a quelque chose de très, très clair, puis Michael vous l'a bien dit, c'est on doit autant se préparer pour un transport intra-hospitalier que pour un transport inter-hospitalier. Ça, pour moi, ça doit être quelque chose qui doit être un message clairement véhiculé. Bon, les transports inter-hospitaliers, il y a beaucoup de littérature là aussi. C'est risqué. Il y a des risques qui sont très bien connus. Juste pour le dire, là, il y a jusqu'à 70 % du temps des effets ou des événements indésirables qui vont arriver. Bon, Miguel l'a déjà dit, dans les études, c'est à peu près un 5 à 10 % de ces effets-là qui sont des effets sérieux. Si on regarde des études plus canadiennes pour parler local, ben, il y en a une belle sur des transports aux soins entre les soins intensifs ou de l'urgence aux soins intensifs à Toronto au début des années de 2010, là, fait que pas très, très vieux. Et puis, ben, grosso modo, à peu près un 6,5, si je me souviens bien, pour cent d'événements indésirables. La majorité du temps, vous l'auriez deviné, là, c'est des désaturations ou des hypotensions. Fait que reste que ce sont des événements qui sont importants, mais qu'on est capable de bien gérer. Il faut juste être préparé à les gérer. Puis, ben, il y a presque un 1 % d'arrêt cardiaque. Enfin, ça arrive encore en 2010, là, tout ça. Là, fait qu'il faut se préparer pour ça. La panoplie des complications qui peut arriver, là, elle est immense. Tous ceux que Miguel vous a parlé ben, vont revenir dans l'inter-hospitalier. J'aime bien les regrouper pour pas en oublier. Là. Il peut y avoir des complications qui sont techniques. Je vais vous donner l'exemple d'un tube endotrachéal qui se déplace, d'un accès veineux qui s'arrache, d'un drain qui se bloque. Fait que ça, c'est du technique. Il y a des complications qui peuvent être plutôt de l'ordre de la physiopathologie. La désaturation, l'hypotension, c'en est une. Sur nos patients en neurotrauma, l'hypertension intracrânienne, c'en est une autre. Alors ça, il y a toutes les complications liées au monitorage qui va être parfois inadéquat ou moins optimal durant le transport. Le fait que la courbe de saturation marche pas bien, le fait que les pressions non invasives, ben, c'est difficile durant un transport dans une ambulance. 2 fois sur 3, ça fonctionne pas, on n'a pas de chiffre. Donc, on intervient peut-être moins à ce moment-là. Il y a toutes les complications liées aussi au fait que l'apport thérapeutique qu'on va pouvoir avoir ou donner à notre patient peut être sous-optimal. Les doses d'antibiotiques, de médicaments qui vont être retardés parce qu'on est pendant le transport, c'est un exemple. Il y a des complications dues à la mobilisation en soi, hein, fait que toute la cinétique, l'accélération, décélération, le fait de passer d'une civière à un lit, tous des moments qui sont des stresseurs pour le patient. Il y a des complications dues à l'environnement, hein, fait que le fait qu'on va avoir des moyens d'investigation, des moyens techniques qui sont limités durant le transport, fait que ma capacité à réagir elle est moins bonne. Et puis, ben, il y a des limitations dues au personnel, hein, fait que ça dépend qui on est mis pour faire le transport dans l'ambulance. Est-ce qu'on a un médecin, est-ce qu'on a une infirmière, est-ce qu'on a un paramédic, est-ce qu'on a un paramédic avancé? Enfin, ça va changer. Est-ce que le personnel qu'on a mis a de l'expérience? Ou pas. Hein? Est-ce qu'il est limité aussi dans ce qu'il a le droit de faire ou ce qu'il n'a pas le droit de faire? Enfin, fait que tout ça, ce sont des complications ou des éléments qui sont à prendre en compte dans tous les événements désirables qui peuvent arriver. Fait que, oui, c'est fréquent, puis parfois c'est sérieux. Fait que ça, c'est le point qu'il faut qu'on comprenne. Bon, maintenant, Michael l'a bien dit, là, quand on fait un transport, il faut tout le temps qu'on évalue le risque-bénéfice. OK, puis ben, ici, pour évaluer le risque bénéfique, ben, il faut vraiment se poser la question, pourquoi je transfère mon patient? Ouais. Il y a 3 raisons de transférer un patient des hôpitaux. Il y a une raison clinique. Hein, fait, bon, la majorité du temps, ben, c'est parce qu'on a besoin d'aller rejoindre une expertise qu'on n'a pas dans le centre dans le centre de départ. On peut penser, par exemple, à la trauma, aux infarctus, aux AVC. Hein, toutes des réseaux bien protocolisés, particulièrement ici au Québec, où ben, les centres d'expertise sont dans des centres tertiaires. Fait qu'il faut les envoyer là pour les prendre en charge. Sinon, ben, c'est peut-être parce qu'on a besoin d'une investigation ou d'un traitement qui n'est pas disponible dans notre centre. On peut penser, par exemple, à de la radiologie. Hein, si on est dans un centre qui n'a pas de scan, ben, ça se peut qu'on ait besoin de le transférer pour faire un scan. Sinon, ben, pour faire de l'angio-intervention, soit en scan, soit en hémodynamie. Aller voir dans un centre où il y a de la thérapie de remplacement rénal, on a besoin de dialyse ou de CVVH. Ou on a besoin de l'expertise plus poussée de soins intensifs, aller dans un centre où on fait de la ventilation avancée, de l'ECMO. Toutes des raisons qui pourraient nous amener à transporter un patient. Fait que, les raisons cliniques, grosso modo, dans la littérature, c'est à peu près 2 tiers des raisons de transport. Il reste à peu près un autre tiers qui va se séparer en deux. Hein, fait qu'à peu près 15% du temps, c'est des raisons non cliniques, c'est-à-dire non disponibilité des lits. Fait que ça, c'est mettre un risque à un patient pour des raisons administratives. Il faut qu'on évite ça le plus possible, mais malheureusement, ça va arriver parce qu'on a une ressource limitée. Puis là, la beauté du coup aussi qui rentre en ligne de compte. Et l'autre moitié du tiers qui restait, c'est les rapatriements, fait que les patients qui retournent dans leur centre de référence. Okay. Vous voyez qu'il y a plein de raisons de transporter un patient.
Puis là, tu sais, tu disais qu'il y a plein de risques, puis des fois, il faut même anticiper les complications potentielles. Fait que ça nécessite une préparation. Fait que un peu comme à l'intra-hospitalier, il y a sûrement une bonne façon de se préparer au transfert inter-hospitalier.
En fait, je veux surtout pas répéter tout ce que Michael a dit. Je pense qu'il y a 3 mots-clés, là. Planification, préparation, anticipation. Il faut qu'on travaille là-dessus. Il faut qu'on le standardise. Fait que le même mécanisme qui s'était mis en branle quand on va au scan puis qu'on fait une évaluation du risque-bénéfice, puis qu'on se prépare pour aller au scan, mais on doit faire exactement la même chose pour l'inter-établissement, puis on doit le pousser plus loin. Hein, parce que là, ici, on s'en va pas juste au scan, il faut qu'on s'en aille dans un autre milieu. La première étape dans la préparation, puis dans la planification, là, ben, c'est un de décider Est-ce que mon patient il est assez stable pour être transféré? Puis est-ce que j'ai une raison valable de le transférer? Puis ça, bien, il faut une évaluation complète du patient. Donc, on évalue notre patient, on évalue son risque-bénéfice, puis on prend une décision à savoir est-ce que oui, on va le transférer ou pas. Si on décide de le transférer, on l'a bien dit, bien, on a besoin de lui trouver un centre qui va le recevoir. Enfin, ici, il y a une étape supplémentaire que d'aller au scan, là. Donc, il va falloir lui trouver un médecin qui va l'accepter. Fait qu'il y a un appel à faire. Il faut savoir dans quel hôpital il s'en va, dans quelle unité, dans quel lit au nom de qui. Puis, il va falloir qu'on prépare son arrivée. Fait que la documentation ici devient hyper importante. Tous les documents qui sont à préparer avant de transférer, il faut qu'on l'ait fait dans notre préparation. Et il faut ensuite qu'on passe à travers la même checklist qu'on aurait faite en intra-hospitalier. Hein, fait qu'on va tout voir. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour gérer mon A, mon B, mon C? Hein, fait que refaire un checklist par système. Est-ce que j'ai stabilisé assez mon patient pour qu'il soit sécuritaire durant son transport? Hein, fait qu'on va encore là restabiliser, comme on l'avait dit en intra-hospitalier, dans la mesure du possible. Puis tout ça, bien, à mettre dans la balance avec l'urgence de l'envoyer dans un centre référent. Si le patient a besoin d'un neurochirurgien parce qu'il est saigne dans la tête, ben c'est sûr que son traitement définitif, c'est sa neurochirurgie. Et donc, on va faire le plus vite possible, dans la mesure du possible, pour le stabiliser le mieux possible. Ça sera jamais parfait. Puis, quand on envoie un patient qui est pas parfaitement stable, ben, il va falloir se justifier à ce moment-là. On parlait des risques médico-légaux. Ben, c'est tout le temps les situations chronodépendantes sont des situations qui sont souvent les plus malaisantes parce qu'il faut qu'on fasse des compromis. Fait que dans la préparation, là, il y a vraiment toute cette façon-là de voir et de préparer, puis mais vraiment le copier-coller en intra et en extra hospitalier. Une fois que j'ai décidé de la préparer, il faut que je me pose des questions de plus. Dans la préparation, c'est est-ce que j'ai tout l'équipement que je vais avoir besoin durant mon transport? Puis est-ce que j'ai tout l'équipement en matériel puis en médicaments pour tout ce que j'anticipe qui pourrait arriver? Il n'y a rien de pire que d'être dans une ambulance pour un patient qui a un choc septique, puis que, ben, en fait, qu'il avait un sepsis sévère, mais qu'il n'y avait pas d'hypotension, puis qu'on se rend compte qu'il est rendu hypotendu pendant le transport, puis on n'a pas d'amine. Enfin, il faut que je l'aie anticipé pour l'amener, OK? Puis il n'y a rien de pire que d'avoir anticipé puis de ne pas en avoir amené assez. Fait que ça, c'est non. On peut vous dire la même chose par rapport à l'oxygène. Il faut que j'anticipe ma consommation d'oxygène pour être sûr que je vais avoir assez d'oxygène pendant le transport. Puis pas juste se fier à la réserve de l'ambulance. Il faut qu'on fasse des calculs. Bref, beaucoup de préparation à ce niveau-là, au niveau du matériel. Après ça, il faut qu'on fasse de la préparation au niveau du personnel. Il faut qu'on se pose la question, c'est qui que je mets dans l'ambulance? Est-ce que je vais y aller avec une équipe dédiée? Est-ce que ça va être l'équipe du centre qui l'envoie? Est-ce que ça va être une équipe du centre qui reçoit avec une expertise en transport? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions à venir. Est-ce que je mets un médecin ou pas? Fait qu'ici, ça se prépare, ça. L'important, c'est de reconnaître ses limites. C'est pas tout le monde qui est confortable dans toutes les situations de transport. Fait qu'il faut le nommer quand on n'est pas confortable. Puis, faut aller chercher les conseils nécessaires. La majorité des centres avec des soins intensifs font souvent des recommandations pour sécuriser le transport. Puis ben parfois on va aller les chercher au besoin. Puis ben chaque région, chaque pays a ses façons structurées qui sont très différentes d'une place à l'autre. Comme le disait Mickaël au début, au Québec on est à la remorque de ce qui se fait ailleurs dans le monde. Mais il y a beaucoup de travail qui est fait pour essayer de le standardiser puis de l'améliorer. Est-ce qu'il y a lieu ici de se poser la question des équipes de transport, du document du Collège des médecins sur quand mettre un médecin? Ben oui. Puis je pense que le document du Collège des médecins pour les gens du Québec, c'est quand même un document qui est très important à connaître, qui vous dit quand est-ce qu'un médecin doit être présent à bord. Hein? C'est un document qui est très pour nous autres là, ici au Québec. Là. Puis il y a des situations très basique. Là. Par exemple, un patient qui a fait un arrêt cardiaque, un patient qui a un infarctus du myocarde, mais qui est compliqué. Hein. Ce n'est pas tous les infarctus qui ont besoin d'être accompagnés. Un patient qui est intubé puis qu'on anticipe des complications de sa ventilation pendant le transport. Une femme enceinte qui est à risque d'accoucher pendant le transport. C'est des situations qui sont en général assez claires, mais malheureusement, encore en 2021, qu'on voit fréquemment voir des patients arriver dans nos unités de soins intensifs non accompagnés, alors qu'il y avait clairement une indication. Fait qu'il faut connaître ce document-là. J'incite tout le monde à aller le lire. Fait que c'est un des éléments qui est important.
On va s'assurer qu'il soit dans les notes de la balado pour les gens du Québec, là. Fait que là, c'est sûr que dans le document du Collège des médecins, on dit qu'en mettre un médecin. Fait que là, ça m'amène un petit peu à penser aussi, à parler un peu d'équipe. Tu nous en parlais un peu tantôt, qui on devrait mettre dans l'ambulance. Fait que, t'sais, est-ce qu'on devrait avoir des équipes dédiées, des équipes formées? Qu'est-ce que tu penses de ça?
En fait, c'est un sujet qui est hyper intéressant. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a différentes façons de fonctionner dans le monde qui ont été étudiées. Pour donner un exemple, aux États-Unis, c'est souvent un duo paramédic avec infirmière. C'est pas mal le standard pour le transport. En Europe, c'est beaucoup plus souvent un duo médecin-infirmière. Bon, il y a quelque chose de clair dans la littérature, là. C'est qu'il n'y a pas d'évidence ferme que d'avoir une équipe dédiée en transport pour tout transport confondu. Ça amène un grand changement sur les outcomes des patients, là, sur les issues. Sauf qu'il y a des tendances. Ça a l'air d'être bénéfique. Fait que c'est intéressant. Il y a lieu de se poser. Clairement, il y a un besoin d'expertise. Ça, c'est clair. Maintenant, il y a des places dans le monde où il y a une façon structurée de décider quelle équipe on va activer. Enfin, peu importe que ce soit une équipe dédiée de transport, qui ait des paramédics avec des infirmières ou avec des médecins, la question, c'est quand est-ce qu'elle est utile? C'est probablement pas pour tous les transports. J'aime bien ce qu'ils font au Royaume-Uni, où ils ont un algorithme où ils vont stratifier le risque du patient et le risque du transport, venez merger ça, puis prendre une décision à dire, ben là, ici, on a juste besoin des paramédics. Ou on est dans une situation intermédiaire, on a probablement besoin de gens compétents en situation d'instabilité, mais ça peut être l'équipe qui nous l'envoie, donc l'équipe de l'urgence ou des soins intensifs référents. Et il y a des situations très particulières où on est en haute instabilité et qu'il y a probablement là une raison vraiment claire d'avoir une équipe dédiée avec l'expertise puis la science du transport bien inculquée. Et puis là, ben, ça devrait être l'équipe du centre receveur qui va le chercher. Et nous, c'est un peu le modèle sur lequel on se calque en Estrie. Et on essaye de le faire le plus souvent possible, mais sachez qu'il y a plein de modèles qui existent. Et puis si ça vous intéresse, en référence, là, vous avez le guideline du Royaume-Uni qui se base sur un modèle comme ça.
Que ce que je comprends, c'est qu'au Québec, on est vraiment en train de mettre ça en place. Puis dans le fond, présentement, hein, ça dépend vraiment où ce qu'on est, dans quelle région on est, puis selon la situation du patient. Fait que c'est vraiment une discussion entre le centre référent puis le centre receveur. Puis c'est de cette façon-là que pour l'instant, on va décider qui vient chercher, qui part avec, qui rentre dans l'ambulance. C'est un peu ça, je comprends.
Oui, puis en fait, c'est au Québec, là, il y a une mouvance importante au cours des dernières années dans le sujet du transport pour les soins critiques. Le COOLCY était l'une des premières étapes à bien établir, parce que le COOLCY nous permet d'aller mettre le patient à la bonne place, avec les bonnes personnes, mais dans sa destination. Donc, il va nous permettre de trouver un lit. Ça, c'est important. Maintenant, il faut plus que juste trouver la place, il faut sécuriser le transport. C'est probablement la deuxième étape qui va s'établir quand le COOLCY va être bien ancré, c'est de dire comment est-ce que de façon provinciale on organise le transport pour que ça se fasse de façon uniforme. Parce qu'il n'y a pas, il y a pas de raison qu'en Estrie, il y a une équipe qui en a une autre différente dans le coin de Québec puis dans le Grand Nord. Il devrait y avoir une façon structurée où tout le monde fait à peu près la même chose sans imposer. On va tout le temps avoir des variantes locales, ça c'est clair. OK, il y a des réalités locales qui vont perdurer, mais on devrait avoir une façon assez structurée d'organiser le transport. C'est les modèles qui ont été adoptés par le reste de nos compatriotes canadiens. En Ontario, Il y a une agence qui s'occupe de faire la coordination des appels, qui trouve un lieu, puis après ça, bien, il y en a un autre qui est responsable d'organiser le transport. À Vancouver, c'est un petit peu aussi là, en Colombie-Britannique le même pattern. Fait que, je pense que le Québec s'en va pas vers un scénario comme ça, mais dans combien de temps, ça, j'en ai aucune idée.
Ouais, je vais aller dans le même sens que ce que Marc-André dit. Là, clairement, il y a de la place pour une uniformisation des pratiques un peu partout à travers le Québec. Et il y a plusieurs centres à travers le Québec qui ont lancé des initiatives locales où ils se sont organisés pour sécuriser les transports. Je peux pas parler pour toutes les expériences de tout le monde, mais à tout le moins pour le CIUSSS de l'Estrie-CIUSSS, nous, on a mis en place une équipe de transport où les patients hautement instables, il y a une personne de garde qui est capable de se déplacer pour aller chercher les patients qui sont très, très instables et donc aller apporter l'expertise de soins critiques vers les centres qui en ont moins d'expérience et qui pourraient se mettre elles-mêmes à risque si elles effectuaient des transports de patients hautement instables. Quand on n'a pas nécessairement l'expertise d'un ARDS très sévère, même si nos médecins référents, nos médecins d'urgence sont très bons, ils peuvent ne pas avoir l'expertise nécessaire quand c'est des patients qui sont gravement malades. Alors, on a mis en place depuis un an, depuis la COVID environ, mais pour des patients COVID ou non COVID, mais une équipe de transport mobilisable à toute heure du jour ou de la nuit, 24 heures 7, pour aller chercher des patients dans nos centres référents lorsque le besoin clinique s'en fait sentir. On comprend que vous comprenez quand même que la majorité des transports vers nous autres, vers le CHU, sont quand même faits par les équipes référentes, mais occasionnellement, c'est l'équipe de transport qui va aller chercher les patients. Et je pense que ça apporte une sécurité ou une sécurisation de la pratique pour nos centres référents. Il y a d'autres régions du Québec qui n'ont pas nécessairement le luxe de se monter des équipes comme ça. Puis de façon un peu paradoxale, les transports des régions très, très éloignées à l'intérieur du Québec bénéficient à travers les systèmes comme EVAC ou les autres compagnies de transport d'une certaine expertise de staff, d'infirmières, d'inhalothérapeutes et de médecins qui sont vraiment spécialisés dans le transport et qui vont coordonner ces transports-là. Mais des fois, plus près de nous, il y a même moins d'expertise déployée dans le transport que des patients qui viennent de vraiment très, très loin.
C'est sûr que le fait d'être loin ou d'avoir le manque de ressources aussi, ça peut pousser l'innovation, ça peut pousser aussi la débrouillardise, puis la recherche de solutions. Fait que des fois, ça peut, comme tu le dis, être paradoxal, que des gens dans le Grand Nord sont peut-être mieux outillés en transport de patients en soins critiques que des régions plus limitrophes de grands centres urbains, par exemple. Ben, je pense que ça fait pas mal le tour du transport, en tout cas les grandes lignes. Hein, c'est sûr qu'on, à la passion que je vois pour le sujet que vous avez, on pourrait en parler vraiment longtemps. Je tiens vraiment à vous remercier, les gars, de partager votre expérience, de votre expertise là, sur le transport des patients en soins critiques. Puis je me permets de vous lancer l'invitation éventuellement là, pour continuer ce sujet qui semble vraiment banal et peu sexy, mais combien important.
Tu as tout à fait raison, puis j'accepte l'invitation avec joie. Merci de ton invitation pour cet épisode-là. Puis si on a l'occasion d'en reparler à un moment donné, mais ça nous fera plaisir.
Merci.
C'est ce qui termine l'épisode d'aujourd'hui. Pour nos auditeurs hors Québec qui ont, comme vous avez compris, ont peut-être une expérience un peu plus poussée sur le sujet, comment préparez-vous vos transferts? C'est quoi vos trucs? C'est quoi vos astuces? Vos anecdotes aussi? Hein, parce que des fois, c'est dans l'échec qu'on apprend. On poursuit la discussion sur Twitter, Facebook et naturellement, tous les épisodes sont disponibles sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube et toutes les autres plateformes. D'ici le prochain épisode, faites attention à vous autres. Bye. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.